Je veux faire ici justice d'une calomnie infâme dont ma société est victime. Comme vous le savez, quelques journaux, qui je dois le reconnaître, ne sont pas tous de gauche, nous accusent de polluer la mer. Ils prétendent que notre raffinerie rejetterait des produits chimiques extrêmement nocifs à telle enseigne que la vie sous-marine aurait disparu jusqu'à plusieurs kilomètres des côtes.
CO2, mon amour.
Vaste calomnie que tout ça. Et pour le prouver, je vais, moi, Dardel Jean-Marie, boire de cette eau devant vous. Et ma bonne santé, que vous pourrez constater dans les jours à venir, fera la preuve de l'inanité de ces accusations portées contre nous.
Sur France Inter.
Je leur ferai croire n'importe quoi à ces imbéciles.
Merci à vous Jean-Pierre Marielle, c'est un extrait de Pétrole, Pétrole de Christian Jouhon, c'était en 1981. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 mon amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec aujourd'hui Julien Dumont. Et nous avons préparé l'émission avec Élise Amchin et c'est Jérôme Boulet qui a trouvé ce petit son d'ailleurs et qui réalise l'émission. Bah, qui va commencer par une petite humeur, une petite info que m'avait passé mon copain Patrick Deschamps dans le Grésivaudan. Mais là, on va aller plutôt en Savoie. Nature, nature, que de crimes commettons de bonne foi en ton nom. Alors nature, oui, mais propre, aménagée, ratissée, sécurisée, bien peignée pour un dimanche en famille. Allons voir les hérons blancs, les enfants, comme ils sont beaux sur leurs grandes papates, perchés sur leur nid. Sortez le pique-nique, ballon et jeu de boules. Bon, pas de problème pour la voiture, le parking. King tout neuf est stabilisé. Alors pourquoi vous dis-je cela ? Eh bien parce qu'en Savoie, au bout du superbe lac du Bourget, là où Lamartine, vous savez, soignait sa mélancolie sans psy, sans médoc, sans Prozac, eh ben, y a la forêt alluviale de la Lesse, ou du moins ce qu'il en reste, dernier refuge oublié d'une faune riche et débridée, alors protégée par tout ce qui existe de loi environnementale, hein, Natura 2000, Ramsar, Nieps, espace naturel classé, je dois sûrement en oublier. Bon, elle a juste le malheur d'être coincée au bout du lac entre zone de loisirs et zone artisanale, et jouxte les murailles réhabilitées du château de Thomas II. Thomas II, c'était un gars de Savoie, hein, comte de Savoie, seigneur du Piémont, un gars du XIIIe siècle, dont la mise en valeur touristique implique son déferlement de population émerveillée par tant de grâce, de force, de beauté, avec tout le respect qu'on peut attendre des foules en goguette dont je fais partie. Hérons, canards, garde-bœufs, aigrettes et bécassines, sans cesse dérangés, voudront bien coucher ailleurs. Allez, allez, on va aller un peu plus loin, toujours un petit peu plus loin. Bah ouais, d'accord, mais enfin, on n'a plus d'espace et tout ça. Bon, qu'à cela ne tienne, on vous fera de faux, tout beau, en plastique, hein, des hérons, des canards, tout ça. Et les gens n'y verront que du feu. Piétiner la vie sauvage est quand même un sport qui est devenu national. Qui n'a pas ces petites scandales comme en Corse ? Ben, il en fallait une à la Savoie, par ailleurs très joli département. Et ben, la voilà. Il est juste prévu la destruction de la dite forêt alluviale qui remplit plein de fonctions écologiques pour dégager la vue sur le lac, sur la route, depuis le château du Sieur Thomas II. Alors, il existe bien sûr une pétition avant qu'il ne soit trop tard. Donc, si vous n'avez pas encore le poignet trop douloureux, vous la retrouverez. Et voilà, et donc c'est bien une émission qui empêche de bousiller, de polluer, de réchauffer en rond. Moi, je rajoute quand même assez lucidement, modestement, et en tout cas qui essaie. Et ceci quand même à quelques jours, ce sera donc lundi, de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité, les services écosystémiques. Et on va sûrement beaucoup communiquer sur les dégradations de l'environnement. On va beaucoup, beaucoup se désoler. Nous avons une belle actualité. Bonjour Arnaud Gossement.
Bonjour Denis.
Vous êtes avocat en droit de l'environnement, toujours Arnaud Gossement. Vous intervenez très régulièrement dans cette émission. Alors évidemment, l'actualité, ça a été les propos donc de notre président de la République. Alors bon, moi je regarde un petit peu la presse. Donc il y a aussi les réactions des différentes ONG. On renvoie les réponses à la création de nouvelles instances. L'environnement est un thème fort lors du grand débat et c'est un maillot faible du discours. Seul le climat a été évoqué par la biodiversité en souffrance. Conseil de défense écologique, est-ce un concept creux ou bien une annonce d'une nouvelle mobilisation ? Convention citoyenne de 150 citoyens tirés au sort dès juin ? Non, je ne sais plus. Alors, on a envie de faire un petit peu le pas de côté donc aussi avec vous, Arnaud Gossement. D'abord, d'où ça vient ? D'où viennent, on va dire un peu ces idées entre Conseil de défense écologique, Convention citoyenne avec 150 citoyens tirés au sort ?
Ben, ça vient surtout de Nicolas Hulot, et d'ailleurs c'est à se demander si Emmanuel Macron n'aurait pas dû davantage écouter Nicolas Hulot lorsqu'il était ministre que lorsqu'il est sorti du gouvernement. Et c'est vrai que chez vos confrères de Libération, début de semaine, Nicolas Hulot avait notamment demandé la création de ce conseil de défense écologique, sorte de petit conseil des ministres ramassé autour des questions écologiques. Donc c'est pas une commission, hein, il n'a pas essayé d'enterrer les problèmes, comme le disait Clémenceau, avec une commission. Il a cette fois-ci annoncé une réunion de ministres. Et puis il a aussi annoncé une réunion de citoyens. C'est aussi une idée qui avait été portée par Nicolas Hulot, une assemblée du futur dont une partie pourrait être composée de citoyens tirés au sort. Donc une réunion de citoyens, une réunion de ministres, et avec ces deux réunions, effectivement, l'espoir de donner des gages sur l'environnement. Bon, ça a été un peu un échec, hein, de ce point de vue-là.
Et voilà, non, mais c'est parce que en fait, on a déjà énormément de solutions sur la table concernant donc le climat, la mobilité, les transports, la biodiversité. Enfin, tout ceci a quand même été sacrément lié. À quoi donc ça peut servir?
Oui, alors effectivement, c'est là où le bât blesse, parce que ces deux instances, ces deux types de réunions n'auront pas de pouvoir de décision. Elles ne pourront donc rien changer concrètement en matière d'écologie. On peut juste espérer du Conseil de défense écologique qu'il permette de mobiliser tous les ministères. C'était un peu cette idée d'un vice-premier ministre du développement durable que soutenait Nicolas Hulot, qui est un peu reprise avec cette idée qu'Emmanuel Macron lui-même va reprendre les choses en main et imposer à tous les ministres de faire du vert. Bon, le problème, objectivement, c'est qu'on attendait beaucoup plus des choses sur la fiscalité du carbone, sur le bâtiment, sur les énergétique, sur l'agriculture. Et là-dessus, on a été un petit peu déçus, effectivement.
Alors maintenant, évidemment, on sait qu'il y a quand même un décalage depuis très longtemps, hein, ça date pas du président actuel, mais entre l'État et donc la société, par partie, qui avance quand même beaucoup plus vite, il y a toujours un décalage, on le voit dans les sondages et même dans les actions. Malgré tout, je veux dire que notre président de la République va pas pouvoir couper à trop de choses en matière d'environnement.
Oui, alors c'est le verre à moitié plein. Vous savez que je suis toujours un éternel optimiste. La meilleure manière effectivement de se rassurer, c'est d'abord de rappeler que ce n'est pas Emmanuel Macron qui a les principaux pouvoirs en matière d'écologie, c'est l'Union européenne. C'est là où ça se décide. Et si vous n'êtes pas content du discours d'Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, allez voter le 26 mai pour les hommes et pour les femmes qui portent les questions de climat et de biodiversité au cœur des institutions de l'Union européenne. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, rappelez-vous, a annoncé deux projets de loi lors de son allocution, un sur le climat et un autre sur l'économie circulaire. Ces deux projets de loi ont pour but d'appliquer des engagements européens au niveau français. Donc, petit 1, notre espoir, c'est l'Europe, avec ces belles élections qui viennent. Il faudrait que l'abstention se réduise un petit peu. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la société avance beaucoup plus vite que le président de la République et que l'État lui-même. Et avoir toutes les réactions de quasiment tous les acteurs politiques, économiques, depuis cette conférence de presse, ça rassure aussi. On voit qu'effectivement, on n'a pas banalisé l'absence de véritables mesures fortes d'Emmanuel Macron sur l'écologie.
Et on sépare nos gossements, évidemment, ce qui va sortir de cette réunion intergouvernementale avec pas mal de ministres de l'Environnement. Ça, ce sera lundi et mardi, donc à Metz. Là, on va parler de biodiversité. Et on voit bien que dans le discours d'Emmanuel Macron, seul le climat a été évoqué. Hein, et la biodiversité, je le disais encore, elle est très souvent en souffrance.
C'est très bizarre parce qu'actuellement, effectivement, l'équivalent du GIEC de la biodiversité a rendu un rapport qui est au centre de tous les débats. On a vraiment un sujet de biodiversité qui est actuellement dans tous les médias. Et effectivement, Emmanuel Macron s'est concentré uniquement sur la question du climat, extrêmement importante, mais c'est un peu un mini-jambiste. Hein. Il faut parler des deux, du climat et de la biodiversité. C'est comme toujours, on parle effectivement uniquement de certains sujets, pas que d'autres. Et si Emmanuel Macron, avec ce conseil de défense écologique, veut mettre l'écologie dans tous les ministères, il faut qu'il mette toute l'écologie dans tous les ministères et pas qu'une partie du problème. C'est ça le problème.
Parce qu'on sent bien qu'il y a une espèce de négation de la dimension systémique des enjeux écologiques. Grand merci à vous, Arnaud Gossement. Merci à vous.
Merci.
À bientôt. On va parler de bioluminescence. Allez, dans quelques instants, après qui ? Baz.
Je suis une idée de fourmi. Je suis une idée d'être en vie. Je suis une virée de scarabée. Une petite virée en toute liberté. Et même si j'ai tort, je crache sur la mort. Je suis une idée sans prison. Je suis une pensée coccinelle, une petite pensée, rien que pour elle. Et même si j'ai tort, je crache sur la mort. Oh, et même si j'ai tort, je crache sur la mort. J'en perds les pédales. Et même si j'ai tort, je crache sur la mort. Oh, et même si j'ai tort, je crache sur la mort.
Bas-bas, c'est très très bien ça. Insecte, et vous allez comprendre pourquoi nous avons aussi glissé cette chanson.
Ça ressemble à une luciole.
Oui, c'est vrai.
CO2, mon amour.
Et si on attrapait des lucioles?
Denis Chessou.
Ah, oh, je vois ton visage.
Et moi le tien.
Sur France Inter.
Des lucioles sous une moustiquaire, c'est comme des flocons de neige sur une vitre.
La luciole attendra un petit peu dans CO2, mon amour, mais elle va pas tarder à arriver. Et la lumière fut. Et ce sera grâce peut-être à la bioluminescence. Alors Sandra Ray, 28 ans, a créé la société Glowy, donc il y a 4 ans et demi. Alors Glow, hein, c'est briller donc en anglais. 15 personnes aujourd'hui, dont 2 tiers de chercheurs. Donc bonjour Sandra Ray, quel est le projet de Glowy?
Bonjour Denis Chessou. Alors l'objectif, c'est vraiment d'utiliser ce qui est capable de faire la nature, c'est-à-dire produire de la lumière de manière biologique pour réduire son impact environnemental sur le monde et profiter aussi de cette technologie que cette nature a réussi à mettre en place.
Alors moi, je rebondis sur le mot biologique. Donc qu'est-ce qui est biologique? Vous avez été inspiré par qui, par quoi?
Alors on utilise en fait des micro-organismes marins, des bactéries marines. Il faut savoir qu'il y a plus de 80% des animaux marins qui sont capables de produire de cette lumière biologique.
Enfin, ceux qui sont dans les abysses hein, quand même, ceux qui sont en profondeur.
Ben, en fait, il y a un peu de tout. Il y a des micro-algues par exemple qui vivent en surface et il y a effectivement des poissons des abysses. Il y a encore beaucoup d'organismes qu'on ne connaît pas, donc probablement qui sont aussi capables de faire de la bioluminescence. Et donc nous, on a sélectionné certaines bactéries qui ont des capacités qui nous conviennent pour fabriquer un système de lumière.
Comment on sélectionne cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on essaie de capter?
Nous, ce qu'on a cherché, c'est dans la littérature scientifique, quelles étaient celles qui faisaient le plus de lumière, qui résistaient à le plus de température possible, qui étaient le plus stables dans le temps. Et donc, une fois qu'on les a identifiées, on les prend, on les cultive et on les travaille en laboratoire pour les rendre encore plus performantes.
Comment vous opérez?
On les fait muter, ce qui se produit dans la nature. On leur impose en fait des contraintes et ces contraintes-là, par exemple des contraintes de température, vont permettre à certaines bactéries de continuer à évoluer dans le bon sens pour résister à ces températures plus fortes. Et donc ensuite, à la fin, on a une bactérie qui est plus performante.
Alors on va revenir à vous, hein, donc Sandra Ray, mais moi je vous propose de rencontrer Laure Bono-Ponticelli, qui est professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle en biologie évolutive. Alors c'est une spécialiste, oui, spécialiste en fait de la sèche, des céphalopodes, entre autres. Bonjour Laure. Et quelles sont, s'il vous plaît, donc les mécanismes et réactions chimiques qui produisent de la lumière?
Bonjour Denis. Alors effectivement, c'est une réaction chimique qui se base sur la présence d'une photoprotéine. Alors je dis une photoprotéine, mais en fait, il y en a un très très grand nombre, une très grande diversité de photoprotéines, et on les appelle globalement des luciférines. Et à partir de cette luciférine, en présence d'oxygène et grâce à une enzyme, il y a production de lumière.
Quels sont les animaux qui produisent ça? Alors, est-ce que ce sont ceux qu'on appelle des photophores, c'est-à-dire des porteurs de lumière?
Alors, les animaux, eux, vont avoir parfois des structures particulières que vous venez d'appeler des photophores, donc des organes, hein, en quelque sorte, qui, eux, vont produire de la lumière. Alors, les animaux, soit ils produisent de la lumière parce qu'ils sont capables même d'en produire avec la production de protéines, de photoprotéines, soit en fait, ils font appel à des bactéries. Et dans ce cas-là, ce sont des bactéries symbiotiques qui vivent à l'intérieur de leur corps et ce sont ces bactéries qui vont produire de la lumière.
Et on les trouve aussi bien dans des algues, dans des céphalopodes, dans des poissons des grandes profondeurs ?
Oui, alors ces bactéries, on les trouve un petit peu partout dans le monde animal. Hein. On dit qu'il y a deux tiers des groupes animaux qui vont présenter au moins une espèce capable de produire de la bioluminescence. Mais par rapport à la présence de bactéries, il n'y a pas énormément finalement de bestioles qui sont capables d'accueillir des bactéries qui sont bioluminescentes.
Et qui se trouvent plutôt dans les profondeurs ?
Alors, elle se trouve dans tous les milieux, mais c'est vrai que la bioluminescence va se manifester surtout dans les profondeurs. Alors, pourquoi dans les profondeurs ? Parce que à partir de 200, 300 mètres, il fait complètement noir et que les animaux ont besoin quand même de voir un petit peu ce qui se passe autour d'eux. Alors, comment ils font pour voir ce qui se passe autour d'eux ? Eh bien, ils produisent de la lumière. Alors, souvent, on va avoir sur certains groupes, comme les poissons ou les céphalopodes, des petits photophores autour des yeux qui vont faire en quelque sorte une illumination leur permettant de voir un peu plus loin. Mais il va y avoir aussi des photophores sur tout le corps ou au bout des tentacules ou au bout d'un appendice comme chez certains poissons.
Et en fait, il y a un équilibre qui est extrêmement fragile parce qu'il s'agit à la fois de voir et aussi de ne pas être vu.
Et oui, parce qu'en fait, produire de la lumière, ça peut être pratique pour essayer de voir des proies potentielles autour de soi, mais on devient soi-même proie dans ce cas-là, parce qu'on devient visible pour les prédateurs qui ont envie de vous attraper. Donc en fait, il y a un équilibre extrêmement difficile à maintenir en termes de sélection, en termes d'évolution. Alors au niveau des photophores ou de la bioluminescence, il va donc y avoir un petit peu des mécanismes de perturbation d'un prédateur potentiel en essayant de disperser le signal lumineux. Ça, c'est une des solutions qui font que le prédateur est un peu perturbé par tous ces signaux lumineux dont il ne sait pas à quoi ils correspondent vraiment.
Et donc, vous avez aussi des poissons qui vont émettre de la lumière, mais cette fois-ci pour se camoufler, pour qu'on ne voit pas leur ombre.
Alors ça, il y a des poissons et puis il y a des céphalopodes aussi qui ont un système de production de lumière en général au niveau ventral. Et cette production de lumière va servir de système de contre-illumination. C'est l'effet contre-jour, hein, c'est-à-dire qui empêche un prédateur potentiel de voir parce qu'il est en quelque sorte ébloui et les contours disparaissent dans cette luminosité ambiante qui se confond avec le milieu environnant.
Alors merci à vous, hein, Laure Bonneau-Ponticelli, pour ces précisions. J'allais dire bonne évolution, je tenais à citer quand même, parce que l'exposition vient d'ouvrir début avril, jusqu'au 5 janvier, donc au Muséum National d'Histoire Naturelle. Déjà aller voir, ne serait-ce que les jardins, hein, c'est une merveille. Bon, et vous avez l'exposition « Océan, une plongée insolite ». Et puis vous avez aussi, là on va se partir un peu plus loin, on va à Cherbourg, on va dans le Cotentin, et vous avez donc la Cité de la Mer donc, qui vient de rouvrir, avec 17 aquariums qui sont fabuleux, là aussi. Et on peut observer des coraux bioluminescents, donc naturels, qui ont été réimplantés par les jardiniers, donc biologistes. Et puis, il y a des tas de choses, vraiment, dans cette Cité de la Mer à Cherbourg. Alors, Sandra Rey, je reviens vers vous. Vous ne pillez pas donc le fond des mers pour éclairer un jour les façades des églises et des châteaux de Savoie et d'ailleurs. Non, pas du tout. Vous cultivez, on l'a compris, des bactéries marines que vous avez sélectionnées. Et alors, maintenant, revenons quand même, soyons concrets, à vos applications.
Alors, l'objectif pour nous, c'est d'agir là où la lumière a un impact le plus fort, à la fois économique et écologique, et donc de mettre cette lumière dans le paysage urbain, dans le quotidien des gens. Donc ça veut dire commencer par équiper du mobilier urbain, des façades, des souterrains, des parcs et jardins, partout là où on peut considérer aujourd'hui finalement que la lumière est un peu un gâchis parce que elle sert à des fins de visibilité ou de mise en valeur. Alors qu'en fait, on est tous d'accord qu'on ne peut pas éteindre toutes les lumières, qu'on a besoin de cette lumière pour nos sociétés, et donc l'objectif, c'est plutôt de trouver la meilleure source d'énergie au meilleur endroit.
Mais là, on va remplacer donc des ampoules, des LED avec votre système ou...
Utiliser la bioluminescence, c'est un peu plus complexe que juste remplacer une ampoule parce qu'en fait, il s'agit d'une matière première et en plus de ça, c'est vivant. Donc ça demande aussi de repenser toute la chaîne de valeur de cette lumière et de repenser la manière, non seulement dont on la produit évidemment, mais aussi dont on la consomme. Et donc ça va aussi remettre en question une nouvelle manière d'éclairer nos villes demain.
Mais alors, le paradoxe, c'est qu'on a quand même besoin d'un peu d'électricité pour que votre système fonctionne.
En fait, on a besoin de maintenir les bactéries en vie puisqu'elles sont vivantes et elles ne font de la lumière que quand elles sont vivantes. Et donc, en fait, le système fonctionne un petit peu comme une sorte d'aquarium qui vient s'auto-réguler. Et donc, il y a un flux d'eau qui permet de nourrir ces micro-organismes et qui ensuite vont permettre de leur faire produire leur lumière.
Alors, ce qu'on ne comprend pas forcément, c'est quelle forme ça va avoir. C'est-à-dire que les gens voient très bien ce qu'est un néon, ce qu'est une LED, ce qu'est une ampoule, un panneau lumineux. Alors, j'espère que ce n'est pas pour faire de la publicité, quand même, votre affaire. Mais ça va être quoi la forme? Ça va ressembler à quoi?
Ben c'est un des intérêts, c'est qu'en fait, on peut imaginer plein de formes différentes. À partir du moment où on le travaille sous forme liquide, ça peut être plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour faire un panneau d'une enseigne, on va avoir à peu près 350-400 LED qui vont être utilisées et on va enlever toute cette intensité qu'on crée par des plaques diffusantes pour créer une surface de lumière. Avec la luminescence, on a besoin que d'une entrée pour faire fonctionner tout le système et de mettre un liquide dans un contenant qui a la forme de laquelle on souhaite.
Alors, cette idée, elle est venue comment? Parce que vous êtes quand même une jeune fille qui avait été étudiante en école de design. Vous êtes intéressée aux poissons, je crois.
Alors, en fait, j'ai participé à un concours étudiant sur le thème de la biologie. C'était dans mon parcours scolaire pendant ma dernière année d'études. Et en m'intéressant un petit peu à la lumière, je suis tombée sur cette vidéo des poissons des abysses. Et je me suis dit, si ces poissons sont capables de le faire et que nous, on est capable d'avoir des technologies aujourd'hui de pointe en biologie pour reproduire ce que font ces poissons, peut-être que ça peut être une solution de manière finalement très naïve. Et en fait, je me suis rendu compte que non seulement tout le monde connaît la bioluminescence, tout le monde a déjà vu une luciole et sait que ça existe. Et en plus de ça, ça fait plus de 30 ans que la bioluminescence est utilisée en laboratoire à des fins de marquage génétique, par exemple. Donc il y a beaucoup de littérature, beaucoup de savoir. Et donc j'ai commencé à me dire que peut-être qu'on pouvait créer cette matière première. Et après, beaucoup de choses se sont enchaînées pour arriver jusqu'à une entreprise de biotechnologie aujourd'hui.
Alors, vous avez dit luciole. Eh bien, moi, je vais rebondir avec François Lasserre, qui est naturaliste. Bonjour, François.
Bonjour, Denis.
Alors, François, vous êtes actuellement sur une sortie en pleine vallée de Chevreuse. Alors, je rappelle d'ailleurs aussi que la Chevreuse, ce n'est pas du tout une rivière, c'était la vallée des Chèvres. Alors, dans ce parc naturel régional, donc on est dans l'Île-de-France. Et alors là, vous faites une sortie nature, racontez-nous.
Oui, alors l'Agence des espaces verts organise plein de sorties nature gratuites. N'importe qui peut s'inscrire. Aujourd'hui, on est sur une sortie qui s'appelle « Connais tes insectes ». Je vais leur faire découvrir les insectes, mais de façon un peu originale. On leur donnera des noms, les noms qu'on veut.
Voilà.
Donc on fait une sortie nature, mais en étant quand même du naturalisme.
Et on va donc recentrer sur notre fameux ver luisant, en fait qui n'est pas du tout un ver, c'est un petit coléoptère.
Oui, alors c'est un coléoptère quand même un peu particulier, dont la femelle ressemble à une espèce de ver. Je ne sais pas si vous avez déjà été attiré par cette lumière, Denis, merci. Et si vous êtes approché avec une lampe électrique, vous avez bien remarqué que le truc était un peu bizarre. Ressemblait à une espèce de ver, d'où son nom de ver luisant. Et en fait, c'est cette femelle qui a un développement un peu particulier, c'est-à-dire que c'est comme si elle était restée enfant, physiquement, alors que d'habitude, chez les coléoptères, les enfants se métamorphosent complètement en quelque chose de différent. Par exemple, la cétoine dorée, le petit scarabée vert qu'on voit sur les fleurs en ce moment, son enfant est une espèce de gros ver blanc qu'on trouve dans le compost. Et il se métamorphose complètement. Et chez le ver luisant, ça arrive chez monsieur, qui est une espèce de ver et qui devient un adulte avec ses ailes, alors que la femelle, et c'est très particulier au ver luisant, reste sous sa forme juvénile. Alors il y a quelques indices qui nous font savoir que c'est une femelle adulte quand on est un peu spécialiste, mais sinon effectivement elle ressemble aux larves, aux enfants, avec ses six petites pattes à l'avant.
François Lasserre, c'est elle donc qui émet de la lumière de façon assez intense pour que le mâle puisse la repérer. Enfin, c'est comme ça que ça se passe, quoi.
Alors, ces coléoptères, au cours de l'évolution, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, des lampyres. Ils s'appellent tous des lampyres.
Oui.
Et lampe, lampyre, briller.
Briller en grec.
C'est la même origine que le mot lampe. Ont développé une bioluminescence. Il y a des réactions chimiques sous leur carapace qui se font entre deux molécules, avec l'oxygène. C'est un peu compliqué, mais qui émettent une lumière froide. Et alors ça, c'est important parce que le fait d'émettre une lumière froide fait dépenser assez peu d'énergie. Il n'y a pas de chaleur produite. Et c'est une lumière qui est plutôt verte. Et cette lumière existe pratiquement à tous les stades de leur vie et chez tout le monde. Mais c'est-à-dire les œufs, les larves, les mâles, les femelles. En revanche, là où elle est beaucoup plus lumineuse, en tout cas chez le ver luisant, c'est chez la femelle. Et c'est elle qui va émettre un signal. Alors, soit en bougeant l'abdomen chez certaines espèces, elle bouge l'abdomen et du coup le mouvement alerte les mâles, soit en clignotant parfois, et c'est le mâle qui va les repérer. Donc quand on trouve un mâle de ver luisant, alors déjà on sait pas que c'est un ver luisant parce que ça ressemble pas du tout à la femelle, et surtout on peut remarquer des yeux absolument gigantesques, on dirait presque une tête de libellule. Et donc, ils sont bien formatés tous les deux. Il y en a une qui émet la lumière et l'autre a des énormes récepteurs de lumière, ses gros yeux.
Alors, nos vers luisants, évidemment, ils n'aiment pas beaucoup la pollution lumineuse des villes, hein, parce que ça freine la reproduction. Ils n'aiment pas le broyage non plus des bords de route. Je ne parle même pas des insecticides divers et variés. Et alors, François Lasserre, faisons quand même la différence entre le vers luisant et la luciole. Hein. C'est quoi? C'est la même famille, mais ce n'est pas pareil.
Voilà, c'est tous les deux des lampyres, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la même famille. Il y a plein d'espèces. Il y a des milliers d'espèces dans le monde. Et en France, on avait en tout cas avant le vers luisant avec la femelle un peu immobile au sol qui ne vole pas, et les lucioles dont les mâles clignotent et volent. Et les films un peu féeriques, je pense par exemple aux BD japonaises de Miyazaki où on voit des lucioles volantes au Japon, ben on avait ça un petit peu avant, des vols de lucioles. Mais ce lampyre, ce coléoptère, est beaucoup plus sensible que le vers luisant à notre utilisation de l'espace, à nos pollutions lumineuses, au fait qu'on broie le sol où il y a les larves et les œufs. Et du coup, on n'en voit quasiment plus. Mais donc la luciole, c'est vraiment une cousine du vers luisant, mais qui vole et qui clignote en volant et qui nous faisait des jolis vols aériens. C'est un peu comme si c'était des petites fées ou des elfes. D'ailleurs, c'est à se demander si les lucioles n'ont pas inspiré les contes et légendes.
Ah mais si, absolument. Grand merci à vous, cher François Lasserre. Et puis donc, moi, je vous renvoie à ces sorties nature de l'Agence des espaces verts en Ile-de-France. On pourra vous y retrouver, donc avec grand plaisir. À très bientôt, François Lasserre, et merci.
À bientôt, Denis. Au revoir.
Et puis, on peut poursuivre le voyage avec votre site, hein, avec François Lasserre, parce qu'il y a plein de bouquins donc qu'il a écrit, et c'est assez formidable. On va terminer notre voyage dans la bioluminescence. Et puis après, ce sera le deuxième sujet sur le hérisson.
L'Orient binengeli kere wongi, urbem balele limon wongi, sogolwe ma binengeli kere wongi, l'Orient binengeli kere wongi, ngeni yesri yibe yo. Sorry, nigil ni beyo. Lo yes, be well in kere wongi. Onge ba be well in imunu wongi. Lo yes, in ho. Inyonyo ni nyo. Lo yes, in ho. Iho ni mao. Yes, we nengeli kere wongi. Papire din chomo ki kipi tumbi mo. Inge mwe mwa kipi perne ni munu wongi. Inyo baby well ni bezgi wongi. Hata ngonge mlelo. Inge ni yo kiki wo. Mumye abi well ni bezgi wongi. Bana din kirne ni kere wongi. Ilong yesi ho. Inyonyo ni nyo. Ilong yesi ho. Iho ni mao. Ambombo kala ni me. Ilong yesi ho. Iho ni wongi. Yesi wo inyon di mao
eba
lo yesi ho inyon yo ni nyo. Si ho diri ho ni mao ata lo yesi wo e ho ni wongi long yesi wo inyon di mao.
C'est très agréable ça sur France Inter, choisi par Thierry Dupin, donc Blik Bassi qui chantait Wani. Et je crois que ça aurait beaucoup plu d'ailleurs à Francis Bébé parce qu'il était camerounais comme lui.
CO2 mon amour sur France Inter.
Alors on poursuit, on termine ce voyage dans la bioluminescence, autrement dit c'est du biomimétisme, on s'inspire de ce que font les animaux. Alors Sandra Ray, donc les débouchés, c'est qui, c'est quoi?
Alors, on travaille sur différents champs. On a conscience qu'avant de révolutionner un peu cette industrie de la lumière avec la bioluminescence, il y a beaucoup de travail. Déjà, du travail de démocratisation, d'acceptation de ces nouveaux types de lumière et surtout de changer la manière dont les gens travaillent autour de la lumière. Et donc, pour faire ça, on travaille déjà avec des municipalités, avec des acteurs de l'énergie qui vont pouvoir finalement opérer nos systèmes. Et on a décidé de lancer des produits intermédiaires qui nous permettent de montrer la bioluminescence le plus rapidement possible au grand public, de la faire rentrer un petit peu dans les mœurs. Donc, on a lancé, par exemple, on fait depuis le début des installations éphémères pour des événements. Et là, on vient de lancer une salle de relaxation illuminée par la bioluminescence pour vraiment confronter les gens à cette lumière, leur faire comprendre qu'elle existe et puis leur faire aussi profiter de ses bienfaits, qu'ils soient écologiques ou sur le plan du bien-être.
Alors, est-ce qu'il y a quand même des limites ? C'est-à-dire que des grands shows énormes avec des avalanches à la fois de décibels d'un côté et aussi de kilowattheures de l'autre, est-ce que là, la bioluminescence peut apporter quelque chose ?
Alors, nous, on pense que la bioluminescence, c'est pas une solution radicale. Et d'ailleurs, je pense que sur le modèle énergétique, il n'y a pas de solution radicale. Okay. On en cherche, mais en fait, il n'y a aucune solution miracle. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'à certains endroits, un lampadaire avec une LED va avoir du sens. Et à d'autres endroits, un panneau avec de la bioluminescence va en avoir plus. Donc, il faut juste trouver ces bons endroits-là. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un impact.
Et alors, c'est d'un point de vue économique, on va vous dire, attendez, mais c'est peut-être plus cher votre affaire, non, je sais pas.
Alors, en fait, si on parle, par exemple, de systèmes qui peuvent être mis dans le paysage urbain, c'est pas forcément plus cher. Par contre, les sommes sont réparties différemment. Aujourd'hui, on va avoir l'argent qui est à la fois pour l'infrastructure, pour l'installation et pour la maintenance. Et c'est simplement que ça va être une répartition différente. Nous, ce n'est pas la matière première qui coûte spécialement cher, puisqu'en fait, on la cultive. En revanche, on va avoir une maintenance qui est peut-être un peu plus importante, mais qui est aussi plus simplifiée, parce que changer une ampoule dans un lampadaire, il ne faut pas croire, mais c'est très complexe aujourd'hui et ça coûte beaucoup d'argent. Donc en fait, c'est simplement qu'on va répartir la balance différemment et on va réfléchir sur le plan environnemental à toute la chaîne de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, on crée des solutions qui vont être intéressante sur le plan énergétique pendant la consommation. L'exemple d'une LED qui a considérablement réduit les consommations d'électricité, sauf qu'en termes de production et en termes de fin de vie, aujourd'hui, ça reste une catastrophe. L'avantage d'utiliser une matière première qui est vivante, c'est qu'on va s'intéresser à la fois à la phase de production, à la phase de consommation et à la phase de fin de vie pour avoir un bilan écologique qui est plus intéressant.
Ce que l'on entend aussi, c'est que l'éclairage public, quand même, vous intéresse tout à fait fortement, parce que ça correspond, je crois de mémoire, entre à 15-20% des frais électriques d'une commune. Donc ça, c'est pas neutre du tout, mais est-ce que votre système implique de changer, on va dire, des lampadaires ou bien ça peut s'adapter ?
C'est ça qui est compliqué, c'est pour ça qu'on a besoin de temps, c'est qu'on ne va pas demain remplacer tout un parc urbain d'une traite. C'est déjà des process qui durent très longtemps, des parcs urbains ça dure à peu près 20 ans. C'est pour ça que pour nous, au début, on s'intéresse plutôt à des endroits qui ne sont pas encore équipés. Ce qui nous permet de repenser dès le départ avec les acteurs avec lesquels on travaille, notamment les municipalités, la manière dont ils veulent l'éclairer. Et une fois qu'on aura franchi certaines de ces étapes, on va pouvoir remplacer de l'existant. Mais dans un premier temps, c'est beaucoup plus simple d'avoir des nouveaux projets et on a la chance que des nouveaux projets, il y en ait absolument partout.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Et bah que la bioluminescence devienne une vraie solution un peu évidente, puisque ça c'est l'objectif pour nous, que ça soit plus un truc bizarre de chercheur dans un laboratoire, mais juste que ça soit la solution logique comme alternative à la lumière demain.
Écoutez, un grand merci Sandra Ray, puis à très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir Denis Chesson.
Tu vois toi ou pas à quel point je suis devenu une ruine ?
CO2 mon amour.
Et votre chien c'est un vrai con. Il fait chier tout le monde, toute la nuit à aboyer comme un cinglé.
Denis Chesson.
Je hais les bêtes.
Quand on n'aime pas les bêtes, on vient pas se reposer à la campagne.
Je me repose pas. C'est un trou ici, on peut pas se reposer dans un trou. C'est sale, ça pue, il se passe rien.
Sur France Inter.
On se fait chier quand même, non ?
Marielle au sommet avec la petite Lily. Bah oui, mais le chien, il aboie pas forcément après les hérissons. On peut détester les bêtes, mais peut-être, mais sauf le hérisson, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Vincent Coé.
Bonjour Denis.
On fait pas trop de bruit là, hein, parce que donc là, c'est la nuit, c'est chez vous. On est dans le département du Pas-de-Calais. Et là, je vous vois armé, enfin, c'est pas une arme, hein, d'une grande antenne. Où allons-nous ?
C'est tout le début de la nuit. Et donc, là, on est en train de se promener à Losangoël. Et avec mon matériel, on s'en va faire ce qu'on appelle du radiopistage.
Alors, on va pister qui ?
Alors, on va pister des hérissons. On a équipé donc quelques hérissons avec un émetteur.
Oui.
Un tout petit émetteur qu'on leur a collé sur le dos et qui va nous permettre de suivre leur déplacement et d'essayer de trouver l'endroit où les hérissons se planquent dans la journée et l'endroit également où les hérissons vont se déplacer.
un hérisson équipé d'une balise. Ouais, il y avait un petit peu de vent quand même. On n'est pas très loin du Stade Bollaerts à Lens, hein, donc c'est le Lens. Bon, d'accord, il y a le foot, mais il y a quand même aussi le Louvre, hein, qui est là-bas. Mais là, non. On va s'intéresser aux animaux. Vous avez juste derrière nous le 11-19, qui est le plus grand terril d'Europe, 180 mètres de hauteur. On est quand même dans une zone urbaine extrêmement dense. Et puis donc le maire de Los Angeles, Jean-François Caron, et Vincent Ocoé, qui est le directeur du Centre permanent d'initiative à l'environnement de la chaîne des terrils, donc Los Angeles, pas de Calais, avec ses équipes, ils font revenir la nature. Ils le font, et puis ils mettent surtout les habitants aussi dans la boucle. C'est-à-dire qu'ils sont aussi acteurs, alors ils vont compter les écureuils, les pivers, et aussi les hérissons. On a des vergers qui sont pas loin. Allez, on poursuit le voyage avec Vincent Coé.
Nous sommes ici en plein cœur du bassin minier de Lens-Liévin, donc sur Los Angeles. C'est une commune qui a investi pas mal en niveau biodiversité et environnement. Et la zone sur laquelle on est en train de se promener, c'est ce qu'on appelle la ceinture verte.
Ouais.
Donc c'est un espace de nature qui parcourt la commune et donc qui crée des corridors biologiques. Et ce qu'on veut, c'est de mettre en évidence, c'est si justement ces corridors sont utilisés par les hérissons. Enfin, les hérissons et par-delà, la faune sauvage, les oiseaux, les insectes.
Ouais.
Et le hérisson, pour ça, est un très bon indicateur. Il marche pas trop vite, donc c'est plutôt facile à suivre, ça va encore. Et surtout, il a besoin de ces milieux assez particuliers qui sont constitués de zones herbacées, de zones arborées, de haies. S'il y a trop de béton, ça lui plaît pas. Il va plus trouver les limaces, les escargots qui lui vont. Des jardins, ça l'intéresse.
Ah oui.
Mais là, c'est pas un bon jardin, ce qu'on a sur le côté.
Ah non, parce qu'il y a un petit muret déjà,
voilà.
Et puis le grillage, il peut passer entre, mais il y a le muret là.
Il y a le petit muret qui l'empêche de passer.
Il y a une fosse.
Enfin, il y a la fosse, donc pour lui, c'est vraiment ça, c'est un piège à hérisson. Et c'est ce qu'on appelle, alors le terme un peu barbare, ce qu'on appelle des éléments fragmentants.
D'accord.
Ça fragmente son aire de déplacement. Et donc, le but de nos études, c'est de comprendre par où il va passer, est-ce que les corridors fonctionnent, et tout ce qu'on pourra mettre en place pour améliorer la perméabilité de l'habitat, et même en milieu urbain, on peut l'améliorer.
Je vous trouve extrêmement courageux, parce que les gens qui nous écoutent sont quand même convaincus et globalement aiment la nature, mais quels sont les arguments que vous employez quand on va vous dire « Oh, bah attendez, c'est de l'argent dépensé, peut-être pour pas grand-chose, c'est hérisson, pourquoi on fait ça ?»
Le courage, il nous en faut, mais c'est bon, il y a surtout la passion qui prédomine.
Ouais.
On a la chance, en travaillant sur le hérisson, comme on avait travaillé il y a quelques temps sur l'écureuil, qui sont des espèces qui ont un fort capital sympathie. Donc ça permet de faire passer des messages et ça sert aussi d'améliorer la connaissance. On va mieux comprendre comment les hérissons fonctionnent dans un habitat, on appelle ça une trame urbaine aussi, aussi dense que celle-là, et d'améliorer les choses, mais aussi d'améliorer ce qu'on appelle le cadre de vie. On est parfois dans des périodes un petit peu moroses et on rend compte que, pour moi, la nature, la biodiversité sont des facteurs un peu de gaieté, d'amélioration.
Oui.
Il n'y a rien de plus, je trouve, qui donne un peu la pêche le matin d'entendre chanter les oiseaux. Faire partager avec mes enfants la découverte d'un hérisson avec des enfants, c'est un événement qui est formidable. Je sais qu'il les marque à vie. La première fois qu'ils ont vu un hérisson, par exemple, ça marque. Moi, mon objectif, c'est que dans 20 ans, dans 30 ans, mes enfants, mes petits-enfants, puissent à nouveau avoir le bonheur de s'émerveiller en se promenant comme ça un soir par un hérisson qui traverse sa petite allée. Donc, c'est un peu notre challenge pour l'avenir.
On est en train de marcher peut-être au l'ancien carreau de la mine. Hein. On a dépassé là des corons et il n'y a pas si longtemps, c'était des chemins qui étaient empruntés par les mineurs, peut-être par des wagonnets.
Voilà, alors juste derrière nous, on a ce qu'on appelle le terri du 15. Donc c'est un terri qui a été en partie exploité, donc il ne reste plus grand-chose. Il reste encore un peu la base schisteuse. On voit sous nos pieds là, c'est bien schisteux, c'est
tout à fait.
Et là, ce qu'on emprunte, en fin de compte, c'est les anciennes voies qui étaient empruntées, soit pour acheminer les matériaux, on appelle ça les cavaliers, c'est les anciennes voies de chemin de fer, qui étaient empruntées donc, justement par les trains qui exportaient le charbon ou qui permettaient de transporter les matériaux entre les fosses entre elles. Bien sûr, depuis une vingtaine, trentaine d'années, ces sites, étant donné que les mines ont toutes été fermées, ces sites ne fonctionnent plus, mais par contre, ils ont été réhabilités justement pour en faire des chemins de randonnée. Et on voit de chaque côté, on a encore une nature qui est gérée. On a des petites haies là, qui sont créées sur les côtés.
Ouais.
On a des espaces herbacés. Alors qu'on est à deux pas de l'autoroute. Hein. Alors on s'approche du secteur où on l'a perdu la dernière fois. C'est qu'on l'endroit où on l'a laissé la dernière fois qu'on a fait les prospections. On va voir si on le retrouve.
Donc là, vous avez le récepteur.
Hérisson, hérisson, Émile le hérisson, où es-tu?
C'est peut-être pas Émile celui-là. Mais... Ouais.
Ah. Super. Ah.
Génial.
Bip, bip.
Quel est le pépère?
On est juste au bord de la route, on n'est pas loin de l'autoroute, dans ce qu'on appelle une zone en friche en quelque sorte, qui était en partie entretenue, dans laquelle on a laissé la nature revenir. Donc on voit que c'est très herbacé, il y a un gros massif de ronces là-bas, et à mon avis,
il est
dans ce massif de ronces. Donc on va s'approcher. Donc grâce à mon système, vous voyez, on voit la puissance du gain que je peux capter.
D'accord.
Et ça me permet, avec mon antenne, en bougeant un peu, là je m'éloigne, donc j'entends quasiment plus. Donc si je me rapproche, voilà. Là c'est de plus en plus fort.
Allez, on y va dans
la
friche. Ça
m'indique une direction dans laquelle il se trouve.
À la recherche du hérisson perdu.
Voilà, là on est tout près de lui. On s'approche. Là l'émission est vraiment de plus en plus forte. Donc avec un peu de chance, on devrait le trouver.
Attendez,
là cette heure-ci, il vient juste de partir en chasse. Il va sûrement être en train d'arpenter le long de la haie. Et donc c'est l'endroit où on a plus de chance de le trouver.
Eh, là.
Ah, super, bravo.
Bah, non, mais c'est pas compliqué. Hein. Dis donc, il est de bonne taille, là.
Bon, on va pas trop s'approcher, parce que sinon on va se figer. Donc on va laisser plutôt faire. Vous voyez l'émetteur dessus?
Oui, ça y est.
On voit,
oui.
Donc c'est tout petit.
Ah oui.
C'est juste collé au niveau des poils. Ça ne gêne pas du tout, c'est très léger. Ça fait
on dit des poils?
Là, on l'a collé juste au niveau des piquants, effectivement.
Voilà. Bon, ça ne le dérange pas. Hein. Oh, ben non, il avance.
Il avance. Donc là, il est en train de chercher les vers de terre, les limaces, les escargots. Les... On voit très bien l'importance de la bande enherbée.
Ouais.
Il est juste au niveau de la bande enherbée et il longe la haie, qui est constituée d'ici d'érables sycomores, de cornouillers, de troènes. Donc une haie naturelle.
Ouais.
C'est pas traité. Donc il y a plein d'insectes.
Mm-hmm.
Et c'est là-dedans qu'il va trouver un peu tout ce qu'il a besoin, des molluses, des gastéropodes, des insectes pour se nourrir.
On sait que dans les lisières, c'est pas à No Man's Land, hein, mais c'est toujours là que se passe beaucoup de choses, et au niveau de la biodiversité en particulier. Quoi.
Voilà, alors ce milieu qui a un joli nom, j'aime bien, on appelle ça l'écotone. C'est la zone un peu de contact entre deux habitats. Cette lisière, c'est un milieu qui est vraiment important à préserver. Et on le voit avec notre petit hérisson qui est en train de se promener. Ben, il s'est éloigné déjà. Hein.
Notre petite bête
est là-bas. Les gens sont toujours surpris de voir la vitesse à laquelle ça peut se déplacer.
Attendez, il a fait 10 mètres, c'est facile. Là,
il monte un peu sur ses pattes, et puis hop, c'est...
Oui.
On s'est rendu compte qu'il peut quand même parcourir parfois plusieurs kilomètres comme ça par nuit à la recherche de sa pitance. Et ça nous permet aussi d'avoir des données sur la taille de son domaine vital.
D'accord.
C'est vraiment important. On a des domaines vitaux qui peuvent atteindre jusqu'à 5 hectares, voire plus, jusqu'à 10 hectares dans certains cas. Et on étudie plusieurs hérissons à proximité. Et ça nous permet de voir quelles sont les interactions entre leurs domaines vitaux et quels sont vraiment les milieux qui vont être le plus souvent parcourus.
De toute façon, c'est un excellent marqueur. Hein. C'est-à-dire que si on a du hérisson, c'est que le milieu est intéressant. Quoi.
Voilà, donc on a encore beaucoup de hérissons, bien qu'on ait encore pas mal de voies de circulation. Et hélas, on en collecte souvent, hélas, écrasés.
On sait que le printemps revient lorsqu'on a des hérissons qui sont écrasés au bord des routes.
Alors, ici, on est tout près de l'autoroute A21, donc une des artères principales du bassin minier. Vous voyez, on s'est mis sur cette zone-là pour étudier parce qu'on a un pont qui a été aménagé avec une petite... Un petit passage.
Ah, hérisson. Oui.
Alors, c'est pas destiné aux hérissons, c'est aussi aux promeneurs, un peu tout le monde. Mais on a envie de voir si ce genre de passage permet justement aux hérissons de franchir cette autoroute sans risquer de la traverser, de se faire écraser.
Ah, oui, parce qu'ils pourraient la monter.
Alors, par endroit, on essaie de développer aussi des grillages le long de l'autoroute pour faire en sorte qu'ils ne traversent pas et l'obliger à passer dans ce qu'on appelle des passages pour faune, en faisant des passages souterrains, des passages aériens, en prenant de plus en plus en compte les exigences de la faune et donc de la biodiversité sur ces milieux.
C'est moi, Robert le hérisson. Je vis sous haute protection. Les présidents des grands pays font tout pour me garder en vie. Ce qui n'empêche pas qu'un de mes cousins se soit fait écraser ce matin.
Il a de la famille ou pas? Parce que sûrement, parce que non.
Alors lui, c'est un mâle. On lui connaît pas encore de petite copine, mais je pense que là, on est en pleine saison des amours pour les hérissons. Et donc, il y a des fortes chances qu'il aille
copuler.
Fricoter.
Va fricoter, mon gars. Et alors après, c'est un bon père ou pas du tout, comme beaucoup de mecs qui se tirent ou...
Absolument pas, c'est pas un bon père du tout.
Ah,
c'est
ça,
il fait juste sa petite affaire et c'est maman qui va s'occuper un peu du
oui.
reste. Hein,
qui
reste
oui.
Vous aviez lancé cette opération, le ch'ti écureuil aussi, donc là c'était de la science participative. Le hérisson fait aussi partie de la science participative?
Oui, parce que dans l'étude qu'on a menée, alors surtout l'année dernière, on a essayé d'impliquer au maximum la population locale,
ouais.
en lui proposant soit de nous indiquer quand ils trouvaient là un hérisson qui était écrasé sur la route, ou soit de nous proposer leur jardin comme secteur d'étude pour le hérisson. On a été vraiment assez surpris du nombre de personnes qui nous ont proposé spontanément de venir étudier les hérissons dans leur jardin, d'installer un piège pour pouvoir le capturer, pour lui mettre soit une petite boucle d'oreille, une petite marque pour pouvoir les suivre, soit justement ces émetteurs dans le dos pour pouvoir faire les suivis. Les gens sont très très attachés à leur biodiversité. Les hirondelles qui disparaissent, très souvent on nous contacte en disant « j'ai plus d'hirondelles chez moi, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux acheter des nichoirs? Je voudrais bien avoir des écureuils, comment je peux faire pour en avoir qui viennent chez moi ?» Alors parfois, et là ça va un peu trop loin, c'est qu'ils veulent carrément qu'on leur vende des écureuils, alors ça, c'est pas la logique, mais ça montre bien qu'il y a encore ce besoin de nature est très fort chez les gens, et c'est aussi des bons vigies sur le fait que ça disparaît. Ils s'en rendent compte, très souvent on dit « ça a disparu, les hirondelles, on l'a vu, le moineau qui disparaît ». Et donc il y a encore cet attachement qui est fort après de notre nature.
Bonjour. Ah, des gens qui passent à vélo. Quand je vous disais de manière pas provocante, mais à quoi ça sert? Ça n'a pas forcément servi. Faire que le beau ne sert à rien et pourtant c'est fondamental.
Voilà, c'est ça. Hein, à quoi servent les espèces? Ça, c'est une question qu'on a souvent. Ça, c'est vraiment un truc typique, je pense.
Que ce soit utile. Quoi.
Utile. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile.
Ouais.
Mais ça doit être utile pour l'homme.
Eh oui, toujours.
Utile vraiment en termes économiques, c'est-à-dire que ça apporte, c'est-à-dire que la bestiole, elle va manger un peu des nuisibles, elle pourra nous soigner plus tard. On essaie un peu de changer parfois cette vision. Quand on me demande à quoi ça sert, je dis ben à rien.
Oui.
Mais c'est ça qui est bien.
Merci à vous, Vincent. Allez, on va le laisser tranquille, on sait qu'il est là, donc tout va bien. Ouais, très bon raconteur du vivant, donc François Coé. On va poursuivre notre balade hein, avec le hérisson. On va rejoindre Philippe Jourde qui a écrit Le hérisson d'Europe dans quelques instants. Il est peut-être caché au milieu des hérissons lui aussi.
Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide, perdu dans le décor. Le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière, pressés de rejoindre son cœur. Tu te lances dans
Voyou et Yel, les brûlés. bruits de la ville, de la playlist. Ben, nous, on va retourner à la campagne avec vous, Philippe Jourde. Bonjour Philippe.
Bonjour Denis.
Alors Philippe, vous êtes naturaliste. Je sais que vous êtes entre le Vercors actuellement et les Charentes-Maritimes, parce que vous travaillez donc à la LPO. Vous êtes un salarié de l'ALI pour la protection des oiseaux, mais vous intéressez aussi à nos délicieux petits mammifères. Et vous avez donc sorti, il y a quelque temps, le Hérisson d'Europe aux éditions Delachaux et Niestlé. Et là, on a un petit peu envie de savoir. C'est vrai que cette bestiole, elle est quand même très sympa. On le disait tout à l'heure avec Vincent Coé, malgré toutes les peines de la terre qui lui tombent sur le museau. Mais c'est vrai que c'est un auxiliaire, ça fait partie de ces animaux, on va dire, sympathiques.
Oui, globalement, c'est un animal adorable. C'est un animal qui ne fait pas de bruit, il n'attaque pas l'homme, il ne nous pose pas de problème. Il est assez répandu, il a une bonne bouille, et ma foi, c'est vraiment l'animal de compagnie. D'ailleurs, on en fait énormément de peluches pour les enfants.
Et oui. Alors, à quelle période sommes-nous maintenant dans son cycle aujourd'hui ?
Alors ça va dépendre un petit peu des régions, mais grosso modo, on est en pleine période de reproduction. Les jeunes, les premiers jeunes vont naître. Certains sont déjà élevés par leur maman en ce moment. D'autres, dans les régions, notamment dans les régions un peu plus froides, dans les reliefs, dans les montagnes, vont naître bientôt. Et d'ici 5-6 semaines de gestation, voilà, tout le monde voit le jour et est élevé par maman uniquement, comme l'a dit Vincent tout à l'heure.
Est-ce un animal territorial ou non, Philippe Jourde ? Je veux dire par là que lorsque l'on voit des hérissons quand on a la chance de les avoir donc, dans son jardin, est-ce que ça peut être les mêmes qui reviennent l'année suivante ou...
Alors, ça peut être les mêmes, mais la majorité des hérissons ne sont pas territoriaux. Ils ont un domaine vital, on l'a vu tout à l'heure. Grosso modo, il leur faut 3-4 hectares pour survivre. Mais par contre, ils ne défendent pas de territoire. Et sur une mangeoire ou sur un site d'alimentation, par exemple la gamelle du chien qu'on laisse dehors dans le jardin, il peut très bien y avoir une série de 5 ou 6 hérissons qui viennent à des moments différents de la nuit. Et on a l'impression toujours de voir le même. En fait, c'est une série de hérissons qui nous visitent.
Et alors Philippe Jourde, puisque vous parlez de nourriture, vous savez, on a un peu quand même cette mythologie, quoi. Le hérisson boit du lait, mais on l'a vu téter le pis des vaches. Ça, j'ai lu ça parfois, donc...
Oui, bon, il y a beaucoup de légendes autour du hérisson, le hérisson et les serpents, le hérisson et le lait. Alors le hérisson, évidemment, il n'a pas du tout besoin des vaches pour se nourrir, heureusement pour lui.
Alors ici...
Je vous en prie,
allez-y, il n'y a pas de problème.
Il se nourrit en fait de ce qu'il trouve tout seul, il a guère besoin de nous. Il profite allègrement dans les zones urbaines des croquettes à chiens, des croquettes à chats, mais son repas préféré c'est quand même la limace.
Alors il sait tout faire, vous dites que c'est un char d'assaut de la nature celui-là.
Oui, il est capable de traverser des rivières, il est capable d'escalader des murs. Alors il faut des murs avec un peu de lierre, il faut qu'il y ait des aspérités pour qu'il puisse grimper. Il est capable de se déplacer dans des hautes herbes. Et vraiment, c'est l'animal à tout faire. Il va pas très vite, mais il passe partout.
Ouais. Et alors, le milieu optimal pour lui, c'est quoi ? C'est le bocage ?
Alors, son milieu d'origine, oui, c'est ça. C'est des milieux un peu avec une alternance de boisement, de forêt, de prairies où il peut manger. Donc, le bocage est parfait. On restitue un petit peu ce bocage dans les zones périurbaines avec nos pelouses et nos haies d'ornement. C'est là qu'il trouve désormais l'essentiel de son habitat.
Alors, comme prédateur, on va dire très vite, il a le blaireau, il a le grand-duc. Là, le grand-duc, de toute façon, ça bouffe beaucoup de choses. On parlait du chien, évidemment, qui peut le blesser. Mais ce qui vient nous intéresser, alors j'ai reçu, donc il y a votre ouvrage, hein, Le hérisson d'Europe chez Delachaux et Niestlé. Et j'ai reçu hier, Sauvons les hérissons, protéger et accueillir les hérissons au jardin. Cette fois-ci, c'est chez Larousse. Comment lui rendre la vie plus facile ?
Alors, en gardant un petit peu de nature dans son jardin, c'est vraiment l'idéal. C'est-à-dire que plus il y a de nourriture pour un hérisson qui se balade, plus il aura de chances de fréquenter. Donc, il faut de la nourriture, donc laisser des espaces un peu libres. Surtout, ne pas mettre de mollucides, d'herbicides, de pesticides. Lui garder quelques zones un peu broussailleuses, où il va pouvoir faire un nid avec un tas de feuilles, un tas de bois, où il va pouvoir se loger, soit l'été, soit l'hiver. Et puis, laisser la libre circulation des hérissons, c'est-à-dire si on a un jardin entouré de murs, faire un petit passage si on le peut. S'il est entouré de clôtures, laisser une petite trappe pour qu'il puisse circuler et que tout ce petit monde puisse vivre librement, tranquillement.
Ouais, pour qu'il y ait effectivement ce qu'on appelle des petits corridors biologiques. Alors, cet animal, évidemment, il fait plutôt la teuf la nuit, hein, c'est plutôt son truc. Un grand merci à vous, donc Philippe Jourde, je ne sais pas si vous êtes dans un coin hérisson actuellement, mais enfin voilà. Donc aux éditions Delachaux et Niestlé, merci à vous. Et puis donc aussi ce Sauvons les hérissons aux éditions Larousse. Bon, bah, dites donc, ça sent la fin. C'était assez animal, hein, assez animalier aujourd'hui, CO2, mon amour, l'a compris. On est parti sur la bioluminescence, etc. On a eu un peu de vert luisant. Et puis, on a eu notre hérisson superstar. Je vous le disais, en Suisse, il est déclaré animal de l'année. Merci à Julien Dumont, à la technique, à Élise Amchin, avec qui nous avons préparé l'émission, à Jérôme Boulet, qui réalise la dite émission, Thierry Dupin, Anne Gouzon, qui nourrit les hérissons, les abeilles et aussi les sites de CO2, mon amour. Et puis, la semaine prochaine, ça va être un tout Bruxelles. Ça, je vais donc aller là-bas. Et donc, ça va être une balade à la fois avec le maire et plein d'initiatives qui sont très intéressantes dans cette capitale européenne. Donc, un spécial Bruxelles la semaine prochaine. Rediffusion entre 5h et 6h du matin. Le podcast, abonnez-vous. Puis le Twitter. Le tweet, vous avez plein de choses. Alors, à la fois hérissons et tout. Sur le tweet, c'est chez Sous. C-H-E-I-2-S-O-U-X. Les petits bateaux. Et puis, ce sera la Tulu, mon petit loup, demain à 19h54.